plus métier sans forcément aller faire du spécifique. Mais ça, je crois que ça fait la transition de la question. Désolée.
Non, non, c'est très bien, au contraire. Mais il y a plusieurs questions qui... C'est très intéressant, il y a plusieurs questions qui se posent. Parce qu'on a finalement des cas de figure... proche en termes de gestion. On voit bien que l'archivage numérique, il est compliqué de le gérer si ce n'est pas en mode projet. Même si le mode projet n'est pas formel au sein des ministères économiques et financiers, il y a quand même une intervention, un cadrage et des étapes dans la conduite du projet. Ce qui m'amène à vous demander, est-ce que vous réfléchissez aussi au niveau de service? Est-ce que vous avez des niveaux de service pour traiter certains cas de collecte où, comme le présentait l'INPI ce matin, on va avoir moins de prérequis, un besoin plus limité de respecter une normalisation contraignante ou bien est-ce que vous avez une offre standard? Et quand j'ai dit ça, je voudrais aussi que vous vous expliquiez un petit peu concrètement, techniquement parlant, est-ce que ça s'est traduit par des offres différentes, techniquement parlant, que vous ajustez en fonction, notamment, de la masse, quand vous traitez de la masse, ou bien des versements unitaires? Marie?
Alors, nous faisons du standard, de manière générale, et du standard, mais également du spécifique. C'est-à-dire que notre processus est complètement standardisé, standard, mais chaque fonds, pour l'instant, est un fonds spécifique en fonction de l'application source, en fonction des ressources aussi que nous avons. Et par contre, ce que nous avons vu, c'est qu'au fil du temps, on arrive quand même à acquérir une certaine connaissance, en fait, notamment des fonds d'archives, enfin des fonds de documentaires que l'on veut archiver. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de génériquer, en fait, cette information, de standardiser le plus possible, en fait, l'entrée dans le SAL. Voilà, donc là, maintenant, c'est la tendance du moment. Et on prépare donc des fonds d'archives, qu'on appelle des BH, et qui sont de plus en plus génériques. Voilà. Donc, c'est au fil du temps que nous avons mis ça sur place.
Il n'y a pas de niveau de service?
Pour l'instant, il n'y a pas de niveau de service. Non. On n'a pas encore cette notion-là.
D'accord. Qu'en est-il chez EDF?
Alors, chez EDF, comme je vous l'ai dit, ça a été très rapide. Donc, du coup, on a mis une Rolls-Royce dès le départ. On s'est dit que c'est plus facile de dégrader que de monter en puissance. C'est un SAE qui est très exigeant techniquement, qui a demandé beaucoup de travail, qui est entièrement dans nos data centers. Donc il est certes en cloud, mais dans nos deux data centers, puisqu'il est forcément écrit en Y. Donc en architecture, c'est pas forcément facile. En revanche, avec les demandes de clients, on s'aperçoit qu'on va être obligé de baisser nos critères et de baisser surtout nos niveaux de service. On respecte un référentiel de sécurité qui est très exigeant chez EDF et ça rassure un petit peu tout le monde quand on soit exigeant à ce niveau-là. Et donc du coup, ça coûte beaucoup en fait. Hein, je reviens sur les coûts, désolée, mais c'est ma vie qui va mais du coup, on commence vraiment à nous dire attention, on est quand même dans les applications niveau 2 du groupe. Donc le niveau 1, c'est les applications vitales. En gros, s'il y a un énorme problème chez EDF, les coupes d'électricité, les applications qu'on doit prioritairement remettre en service. Donc, nous ne sommes pas dans le cercle 1, mais nous sommes dans le cercle 2. Voilà, donc du coup, on aimerait passer sur certaines applications en cercle 3, ce qui fait qu'en termes d'authentification, notamment sur le système d'information, de traçabilité, de nombre de data centers, de serveurs, etc., on pouvait baisser en fait nos services, et je pense que ça va être nécessaire. Donc aujourd'hui, sur les fichiers d'écriture comptable, c'est assez évident qu'on mettait le niveau le plus haut parce que ce sont des fichiers qui sont demandés par l'URSSAF. Et puis les comptes d'EDF sont, tout comme Total tout à l'heure, très suivis. Mais je pense qu'il faut en descendre. Et la deuxième chose, c'est qu'on vise la certification NF 461 cette année. Donc du coup, c'est aussi pour la certification qu'on est parti avec le high level. Mais bon, avoir... alors notre système s'appelle eSearch, parce que je risque de l'appeler souvent par son petit nom, son bébé. Donc un bébé eSearch avec plein de bébés un peu plus attardés, entre guillemets, un bon super bébé parfait. C'est quelque chose qu'on peut vraiment envisager en fait, et qui sera nécessaire pour des fichiers, notamment patrimoniaux, qu'on doit garder longtemps. Donc il faut vraiment pérenniser, mais pas forcément sécuriser avec une traçabilité forte. On veut juste garder l'information très longtemps, parce qu'on a besoin, pour le barrage notamment, d'avoir des archives actives pendant 150 ans. Voilà.
Alors pour rebondir très rapidement sur les coûts, donc quand je vous disais, nous on ne refacture pas, ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas un coût. Et qu'on n'en a pas conscience non plus. Donc c'est vrai que je parlais surtout des coûts sur le côté mode projet, on ne refacture pas aux clients, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on est quand même comptable de l'argent public, donc, donc vous avez tous conscience aussi de ça, au moins à titre personnel. donc c'est vrai qu'on sait parfaitement que nos outils ont un coût. En revanche, et on fait aussi une analyse du risque, effectivement, on n'a pas une analyse du risque, j'ai envie de dire, sur tout le corporate, donc sur tous les ministères. En revanche, le secrétariat général lance des projets justement d'analyse du risque, donc qui partent d'abord d'un petit métier, puis qui s'étendent de plus en plus. Et l'archivage fait effectivement partie du risque, donc le risque documentaire est complètement pris en compte. Alors, pour revenir sur la notion de service entre guillemets dégradé, hein, de services plus ou moins poussés, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans les ministères économiques et financiers, nous ne faisons pas. Nous ne le faisons pas dans le sens où on a une plateforme d'archivage électronique, on a un système d'archivage électronique, et que c'est le même quelle que soit la donnée qui rentre. Donc je n'ai pas connaissance que... Marie Laberdé me corrigera, mais je n'ai pas connaissance qu'on se dirige vers un autre système. En revanche, on fait quand même de la sélection en entrée. Donc on a quand même beaucoup cette analyse de savoir si on est sur de la copie. Donc par exemple, si on a encore si on a encore les documents papier, on ne se pose même pas la question de savoir si on prendra l'électronique. On ne fera pas un doublon. Donc ça fait partie par en revanche des critères, c'est-à-dire que si on a un document papier, on ne prend pas l'électronique, puisque la plateforme ne sert pas à communiquer et à travailler au quotidien, elle sert vraiment à pérenniser l'information. Donc si une copie électronique a été faite pour communiquer entre services, pour avoir accès rapidement à l'information, ça ne leur sert à rien de la déverser sur la plateforme d'archivage électronique. À ce moment-là, on prendra le papier pour le sécuriser. Donc c'est vraiment cette notion-là qu'on va éventuellement retrouver, et puis on ne prendra pas de brouillon, on ne va pas prendre toutes ces informations-là. Mais on ne fait pas, on n'a pas comme à l'INPI différents modes d'entrée ou différentes valeurs de documents qui sont entrées. Soit on les prend, soit on ne les prend pas. Et en revanche, pour rebondir aussi sur ce que disait Lourdes sur Total, c'est-à-dire que même ce qu'on ne prend pas, on accompagne quand même le service. Donc on va quand même les aider à pérenniser l'information, on va quand même leur donner des conseils pour ne pas la perdre, on va quand même leur donner des conseils pour distinguer ce qu'ils doivent conserver, même sur un temps court, de ce qu'ils peuvent détruire très rapidement. Donc on a de toute façon toujours un accompagnement sur la gestion de l'information électronique. Donc, je ne sais pas si on dit archivage, alors si on va dire archivage électronique, mais au moins gestion de l'information numérique dans tous les cas. Je ne sais pas si je réponds à toutes les questions.
Merci Marine. Alors on a cité un mot, papier, qui quand même est toujours présent dans nos entreprises respectives et au ministère économique et financier. Justement, comment vous positionnez aujourd'hui par rapport au papier? Comment voyez-vous évoluer l'archivage dans les années à venir? Chez Total, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui 110 km linéaires d'archives papier. On a un stock d'archives papier qui est assez important et qui bouge, hein, puisqu'on gère à peu près 30 000 demandes de communication chaque année. Mais on voit quand même, on s'aperçoit qu'il y a une stagnation on voit de plus en plus des demandes d'archivage numérique. L'année dernière, tous les projets qui ont été traités sur 15 ou 16 demandes qu'on a reçues l'année dernière, la grande majorité des demandes concernaient l'archivage électronique. Comment voyez-vous dans vos institutions respectives, vos entreprises respectives, cette question de l'évolution du papier? Ça, c'est une première chose. Comment voyez-vous aussi, donc Marie a déjà un petit peu abordé le sujet, comment on répond aux clients, aux services producteurs qui demandent de la numérisation de papier? Souvent ce n'est pas justifié. Comment abordez-vous cette question? J'en parlais en introduisant la table ronde. Fatalement, on est amené à en parler. Ce ne sont pas des archives numériques natives, mais ça a quand même son importance parce que les services, les métiers, il y a une forte demande et une attente importante des métiers au sujet de la numérisation du papier. Donc, comment répondez-vous à cette question chez EDF?
Alors, de manière assez similaire, on a à peu près 110 km aussi d'archives physiques. Donc du coup, le stockage et la conservation du papier ne baissent pas pour vous aujourd'hui. Ce qui a vraiment changé, c'est la communication. On s'aperçoit que le nombre de communication du papier vraiment s'affaiblit d'année en année. Et pas forcément la conservation. Alors comment c'est justifié? C'est justifié par le fait que chez EDF, on microfilme déjà depuis longtemps. En fait, la première chaîne de transposition de la preuve sur un support physique, sur un support analogique, a été réalisée sur microfilm, ce qui fait qu'on a 40 km d'archives physiques et 40, à peu près, ça aurait été l'équivalent si on n'avait pas microfilmé, en fait, donc sur la production. Voilà, donc déjà, on a cette consultation qui se fait uniquement en mode numérique, puisque une fois que c'est microfilmé, comment on envoie les documents sur microfilm aux entités? Bon, et volumérise. Ne hurlez pas, nous sommes obligés. Voilà, donc du coup, la première chaîne normalisée de transfert de preuves entre la Provence a été faite sur le microfilmage. Donc déjà, on a cette consultation qui est sur le numérique. Et pour les dossiers où on a uniquement en physique et qui n'ont pas fait l'objet d'une numérisation et dont le papier est détruit, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens donnent vraiment les archives dont ils n'ont plus besoin au quotidien. Et donc ça va être essentiellement pour des valeurs de preuve et donc de délits légaux qu'on va conserver ces données-là, mais elles ne sont plus forcément actives. Et enfin, avec l'électronique, tout ce qui pourrait être vraiment très consulté au quotidien va être numérisé ou maintenant, depuis 2-3 ans, que moi je suis chez EDF, donc ça fait 4 ans, mais depuis 2 ans, on a tout ce qui est déploiement d'outils collaboratifs, ce qui fait que le document il est nativement numérique et on a très peu de papier, sauf vraiment le contrat, le prouvant qui est généré. Voilà. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que le SAE arrive maintenant en urgence, parce qu'on passe de moins en moins vers la matérialisation.
Alors sur le papier, au ministère économique et financier, je ne pense pas qu'on ait une vraie baisse aujourd'hui de la collecte papier. Alors là, je vais parler vraiment sur c'est de l'instinct, donc je ne notez pas. non, c'est que je soupçonne fortement que c'est parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment déployé à grande échelle la signature électronique, ce qui fait que la plupart des contrats sont aujourd'hui rematérialisés. Donc en fait, on a pas mal de bureautiques donc, sur des serveurs partagés qui ne sont en fait que des brouillons et des documents préparatoires. Alors parfois, c'est la dernière version, hein, mais finalement, la partie probante et historique reste rematérialisée. Donc c'est même le cas pour certains marchés publics qui sont complètement dématérialisés au niveau de l'offre par les entreprises qui candidatent et qui sont rematérialisés au moment de la signature. Ce qui fait que, comme je vous disais, on ne collecte pas de copies numériques si on a encore le papier. Donc on rentre encore énormément de papier de ce point de vue-là. En revanche, on voit une vraie demande se développer de ce qu'on appellerait la numérisation de substitution, donc de services. C'était un petit peu ta question, Lourdes. Oui. Donc je te tutoie aussi. Donc on a cette demande-là de plus en plus de services, alors qui se lancent un peu, j'ai envie de dire, la fleur au fusil, donc qui ont des documents en papier, qui les numérisent, et puis, je ne sais pas pourquoi, un jour se disent, tiens, ce serait peut-être bien de demander aux archivistes si c'était une bonne idée. Voilà, donc en général, à ce moment-là, on arrive et on dit, on va réfléchir avec vous de savoir si c'était une bonne idée. Donc c'est toujours une bonne idée de numériser dans l'absolu, pour eux, parce que c'est plus pratique. Après, est-ce que c'est une bonne idée de se dire ça va remplacer? C'est là où nous on intervient. Et donc c'est là où ma collègue Adeline Deneux, qui est là-bas, chargée de mission, rattachée directement à Marie Laperdrie, et qui est notamment en charge des projets transverses. Et un des grands projets transverses, c'est la certification de chaîne de numérisation. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les services, on analyse leur chaîne de numérisation, on analyse la valeur des documents qu'ils souhaitent numériser et qu'ils souhaitent détruire, surtout, pour voir avec eux les différentes options qu'il y a. Donc, une des options, c'est oui, vous pouvez détruire le papier parce que le document d'origine n'avait pas spécialement de valeur. Oui, vous pouvez détruire le papier parce que votre chaîne de numérisation est suffisamment bonne pour qu'on considère que votre document électronique aura la même valeur que votre original papier. Ou non, ne détruisez pas le papier, on prendra en charge le papier et vous pourrez garder la copie numérique à titre de consultation, mais on gardera la partie juridiquement valable en papier. Donc voilà un peu comment on fonctionne de ce point de vue-là sur la numérisation.
D'accord.
Alors, concernant chez Sanofi l'évolution du papier, je dirais que le papier a encore de beaux jours devant lui, hein, chez nous, puisqu'on a plus de 500 km d'archives dans le monde. Et donc, pour l'instant, notamment tout ce qui est formation sur les principes de records management, tous les principes de records management sont inculqués donc aux records managers dans le monde, mais tout ça c'est basé sur du papier encore. Donc là, pour l'instant, le papier fait encore foi. Par contre, on se rend compte qu'il faut changer aussi nos habitudes. On a des demandes de certains pays qui veulent ne plus gérer le papier et qui veulent notamment numériser des documents dans différents métiers, si je puis dire. Donc, alors, ce que nous avons fait au Global Records Management, c'est d'établir un guide qu'on appelle Scan and Destroy, scannerisation et destruction. C'est-à-dire qu'on scanne, mais le papier, qu'en fait-on ? Alors, suivant les législations, qui l'autorisent ou pas, on va permettre de substituer le papier à l'électronique. Donc voilà, c'est de la grande tendance du moment. Et dans notre SAE, on va accepter ces documents numérisés, alors qu'avant on ne le faisait pas puisqu'on acceptait que des documents natifs électroniques, mais on va vers cette nouvelle tendance qui répond à un besoin de département producteur. J'ai répondu à toutes les questions.
Si. Si, merci. Et ça me fait penser que justement chez Total, on a vraiment une problématique autour de ce sujet-là, de la numérisation, qui est ancienne, puisqu'on a mis en place, et c'était même l'origine de notre système d'archivage électronique, il a été conçu en 2007-2008 pour conserver des copies des documents vitaux. Puisqu'à l'origine, ce système a été bâti pour, dans un plan de continuité des affaires en cas de sinistre, en cas de problème, on puisse avoir des copies dites fidèles des documents vitaux de l'entreprise. Donc, ce qui fait que ces documents-là, ces documents numérisés, sont dans notre système d'archivage électronique et on continue d'accepter de la numérisation s'il s'agit bien de copies fidèles et conformes à l'original. Nous allons parler maintenant, donc on a un petit peu évoqué le sujet de la standardisation. Marie, on a parlé en disant qu'il y a une standardisation au niveau du service. Mais est-ce qu'il y a une standardisation au niveau des méthodes ? Est-ce que vous avez une seule manière d'intervenir, une modélisation, on va dire, qui serait unique, qui s'appliquerait à tous les cas de figure ? Alors, cette question, je dois l'avouer, est un peu rhétorique, parce que j'entreaperçois déjà la réponse qui est fondée sur la base aussi de notre expérience chez Total, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à standardiser les méthodes, puisque chaque cas de figure est bien spécifique. Comment faites-vous justement pour traiter tous les cas de figure ? Que standardisez-vous ? Marie ?
Alors effectivement, je mentirais en